n'avait pas eu de comice agricole à Blois depuis 1976. Organisé par la Société départementale d'agriculture et Aglopolis, le comice reste un événement phare du monde agricole. Installé au Parc des Expositions le week-end du 14 juin dernier, Studio Zef était en plateau pour vous faire vivre l'événement avec plusieurs thématiques liées à l'agriculture abordées, dont celle de l'agriculture biologique. Alice recevait en plateau David Péchard, président du Gablec et agriculteur de la ferme des Quatre Vents, Sandra Rezeau de la ferme des Douze Vaches à Saint-Martin-des-Bois, Luc Giton de la ferme de la Guilbardière à Montoux-sur-Bièvre et Axel Poirier, installé depuis peu à la Vacquerie, à la ferme des Fourmis Vertes. Comment se porte l'agriculture biologique? C'est le sujet de cette discussion. Bonne écoute!
Direct de Studio Zef pour notre dernière table ronde sur ce comice agricole qui se déroule au Parc des Expositions à Blois. Alors, on va prendre un peu la température de l'agriculture bio pour cette dernière demi-heure tous ensemble. Autour de la table, avec moi, David Péchard de la ferme des Quatre Vents et président du Gablec.
Bonjour.
Bonjour. Voilà, ça y est, j'ai plus mes fiches dans le... Luc Luc Giton, tu viens de rejoindre les associés de la Guilbardière, on va en parler un petit peu tout à l'heure, à Montoux-sur-Bièvre, bienvenue.
Bonjour.
Axel Poirier, donc toi tu viens de t'installer sur la ferme des Fourmis Vertes,
c'est ça,
à la Vacquerie, en voisin.
C'est ça.
Et Sandra Rezeau. Donc toi tu as repris une petite ferme, la fameuse ferme des Douze Vaches, donc... qui est passé à 18, à Saint-Martin-des-Bois, dans le nord du département. Et donc, tu t'es installé en novembre 2022, donc production de lait, vache laitière.
Et transformation fromagère.
Et transformation fromage. Merci d'être là. Alors, cette table ronde, elle tombe à point, si je puis dire, parce que l'agence bio a fait part des derniers chiffres dans sa conférence de presse il y a 2 jours. Et alors, ce qu'on apprend, c'est qu'en 2024, le marché est en augmentation de 0,8% par rapport à 2023, le marché bio. Alors, ce n'est pas la folie, mais au moins, c'est positif. On apprend qu'en fait, les gens vont plus acheter bio dans les magasins bio, l'artisanat, la vente directe. On a une augmentation de 7%. Mais par contre, la baisse, et peut-être c'est cette fameuse baisse dont on parle, et on abordera ce point tout à l'heure, les grandes surfaces, en revanche, la vente de produits bio est en baisse de 5%. Alors globalement, sur les surfaces bio, on a une perte de 2% entre 2023 et 2024. Mais alors, ce qui est intéressant à noter, c'est quand même qu'il y a 6% d'augmentation dans les Outre-mer. Ça fait quand même un solde négatif, mais c'est intéressant à noter. 15% de producteurs en bio en France, ça reste, on va dire, c'est déjà ça, et 10% des surfaces qui représentent presque 62 000 fermes. Et puis, 45% des fermes bio, et vous nous direz un peu quel est votre modèle, pratiquent la vente directe, alors que c'est plutôt 25% toutes les fermes au niveau national. Ce qu'on apprend également, c'est que sur la vente des produits bio, on a une baisse. Donc Luc et Sandra, vous pourrez nous dire ce qu'il en est pour vous. Une baisse de tout ce qui est lait, crèmerie. Par contre, une augmentation des fruits, fruits, épiceries salées, boulangerie, pâtisserie fraîche. Et puis, quand même, sur les surfaces, et David, on va en parler également, on a une forte hausse d'arrêt des certifications bio par rapport à 2023, donc plus 20% d'arrêt de certification bio. Mais ça fait quand même un solde positif de 1%. On n'est pas encore dans le négatif en 2024, sachant que ce que nous dit l'agence bio, c'est qu'il y a une baisse chaque année depuis 2020. Et donc une baisse aussi du nombre des nouveaux agriculteurs bio. Et puis enfin, concernant la surface agricole, 2024, ça marque... Alors, moins 0,6% en général au niveau national de surface agricole, donc là ça continue à baisser, mais moins 2% pour les surfaces agricoles bio. Alors tous ces chiffres, c'est au niveau national, et puis si on fait un focus pour ce qui nous intéresse au niveau du Loir-et-Cher, David, tu me dis si je me trompe, il y aurait 300 fermes en agriculture biologique, ça représente 4,4% des surfaces et puis 10,9% des fermes, et on a quand même plus 1,4% de surface certifiée bio en Loir-et-Cher par rapport à 2023. Mais c'est là qu'il y a une grosse baisse, moins 8% de surface en conversion. Alors, avant de démarrer, est-ce que chacun, du coup, vous pouvez présenter un petit peu votre ferme, David ?
Oui, bonjour, donc David Péchard, la ferme des 80. Donc on est installé du côté de la Chapelle Saint-Martin, près de Mer, donc dans le Loir-et-Cher, en agriculture bio sur 200 hectares environ, et avec une grosse activité actuellement de vente directe, à savoir transformation de nos oléagineux en huile, beaucoup de légumes secs et d'autres graines comme du quinoa ou du chia qu'on fait sur la ferme depuis maintenant une dizaine d'années.
Mmh. Et il me semble que c'était une ferme que tu as convertie.
C'est voilà, une reprise familiale, donc mon père qui était en agriculture conventionnelle à l'époque, que j'ai repris en conventionnel et j'ai continué le conventionnel pendant 3-4 ans avant de me convertir en bio à l'époque sur la totalité de la surface il y a 10 ans maintenant.
Mmh. Et développement aussi de nouvelles cultures et de la transformation.
Alors, si on fait l'historique, à l'époque de mon installation, on était sur quatre cultures principales, sur ce qui est représentatif un peu des exploitations céréalières du Loir-et-Cher, avec du blé, du colza et de l'orge. Et puis, on a très rapidement, en se convertissant au bio et en essayant la vente directe, on a introduit de nouvelles cultures et maintenant, on est à peu près sur une vingtaine d'espèces produites sur la ferme. Donc, très, très diversifié avec des rotations très, très longues. Et donc, voilà, on a testé des nouvelles cultures comme le chia, le quinoa. On essaye le sésame, voilà, on a plusieurs essais et tentatives en ce moment et on essaye de diversifier au maximum.
Merci pour cette présentation. Luc, tu fais partie des derniers arrivés sur la ferme de la Guilbardière à Montoux-sur-Bièvre. Alors, la ferme de la Guilbardière, elle est connue parce que c'est une ferme qui est là depuis très longtemps, une des premières fermes en bio en Loir-et-Cher. Anne et Gilles qui ont transmis autour de 2017-2018, je ne sais plus exactement.
2020 même.
Oui. Plus tard, avec plusieurs associés. Donc maintenant, vous êtes combien sur la ferme ?
Eh bien maintenant, on est 6 associés. Donc oui, c'est ce qui caractérise un peu la ferme. C'est l'organisation collective qui nous permet de faire des produits assez divers tout en étant internalisés sur la ferme. Donc on est 6 et on produit donc... des produits laitiers transformés ou du lait cru, des pâtes fraîches, pâtes sèches, de la farine. On a un moulin sur la ferme. Depuis 6 mois, on produit des œufs. Et on a maintenant un verger qui est implanté avec la première production de fraises qui est en cours de production. Donc c'est un peu la force du collectif, quoi. Être 6 associés, c'est avoir 6 personnes sur qui on peut compter... puisque c'est des personnes qui sont là pour du long terme. Et donc voilà, ce qui caractérise un petit peu la ferme. Et donc oui, nous, à l'inverse, on a repris déjà un modèle qui était en bio et assez militant derrière Anne et Gilles. Et donc sur ce créneau-là, on a été assez facilité parce qu'ils ont développé tout un réseau de vente directe et intermédiaire, grande et moyenne surface locale autour de Blois. Et donc voilà, on a un magasin à la ferme, on vend beaucoup en AMAP, en panier de producteurs, et dans les moyennes surfaces autour de Blois.
Mais vous avez considérablement développé l'activité.
Oui, le fait de s'associer en collectif, du coup maintenant on a la meunerie, les pâtes c'était quelque chose d'extérieur à la ferme, c'était hébergé sur la ferme et maintenant c'est intégré dans la ferme. Et donc voilà, les œufs, les fruits qui sont nouveaux, des nouveaux produits, le fromage affiné, il n'y avait pas quand on s'est installé. Maintenant, il y a de la mozzarella, il y a des fromages type reblochon, etc. Et des yaourts. Donc on a beaucoup développé la gamme de produits et fait les investissements en face pour pouvoir affiner des fromages, etc. Quoi.
Vous êtes 6 sur quelle surface ?
On est 6 sur 100 hectares, 97,5 hectares.
Ce qui n'est pas dingue.
Pour 6 personnes, non, c'est très peu. Mais la majorité, de toute façon, est attachée à un atelier qui est l'élevage bovin laitier. Puisque nos vaches sont nourries que à l'herbe, donc ça nécessite une surface suffisante pour faire du foin, pour assurer la nourriture l'hiver. Et pour le pâturage, autant qu'on peut, l'hiver y compris, si on le peut. Donc voilà, et sinon on produit une vingtaine d'hectares, entre 20 et 30 hectares de céréales qui servent à faire la farine, les pâtes, et un petit peu de vente sur du plus long, long réseau, on va dire, et voilà.
D'accord. Merci Luc. Je me tourne vers Axel. Alors Axel, c'est pareil, nouveau venu. Tu t'es installé en janvier, je crois.
Oui, c'est ça. J'ai repris la ferme Les Fourmis Vertes, située à Blois, dans le quartier de la Vaquerie. Donc là, on est voisins. Je suis à 1 km à vol d'oiseau du parc des expositions. Donc voilà, j'ai repris Anne-Sophie qui était installée déjà depuis une dizaine d'années à peu près. Donc comme on a pu voir avec les chiffres, moi j'ai voulu développer la vente directe pour pouvoir vendre ma production. Donc j'ai une production maraîchère, je produis environ 45-50 légumes différents pour à peu près 25 tonnes par an. Enfin, ce que j'aimerais faire vu que je suis dans ma première année. Donc voilà, j'ai un magasin de vente directe ouvert depuis début mai maintenant. Donc qui fonctionne assez bien. Je pense qu'il y avait une demande des clients, des consommateurs sur consommer en local et bio.
Et pourquoi toi, tu as fait ce choix de la vente directe? Donc Anne-Sophie vendait plutôt à la coopérative régionale Valbiocentre. Non,
Il y avait Valbiocentre qui a fermé.
J'étais sûre de toute façon que j'allais me tromper.
C'est Biocentre-Loire.
Biocentre-Loire, voilà.
Donc il y a un groupement de producteurs, oui, régional.
Voilà, et donc pourquoi toi, tu as fait ce choix de la vente directe?
Moi, j'avais une envie de valoriser un peu plus mes produits, tant humainement, donc avec le contact de la clientèle, et économiquement, pour pouvoir avoir une structure viable. Parce que j'ai envie que mon travail soit rémunérateur quand même et pouvoir en vivre et pas survivre. Même si je produis toujours des légumes, donc j'aurai toujours à manger dans mon assiette.
Mais de quoi se plaignent les agriculteurs? Ils ont de quoi manger.
J'aimerais bien manger autre chose que des légumes des fois. Ouais. Donc, voilà. Et moi, dans le groupement de producteurs, je suis le plus petit producteur. Donc, pour moi, je trouve ça que c'est pas forcément adapté à mon système de structure, quoi, ma taille de structure. J'ai que 3 hectares, donc je peux pas faire une économie d'échelle comme des fermes qui ont 150 hectares de production. Ce sont des légumiers. Moi, je suis maraîcher, quoi. Je produis. C'est un peu la variante.
Alors, 3 hectares, vous êtes deux parce que tu as repris la salariée, donc vous êtes deux à temps plein?
Oui, c'est ça, on est deux à temps plein. Enfin, à temps plein, pour le moment, c'est une saisonnière qui travaille 8 mois dans l'année, donc de mars à novembre. Mm-hmm. Donc voilà.
Et ça vous, avec le magasin, ça vous permet de vous relayer justement parce que toute la problématique, c'est de produire, c'est un métier extrêmement difficile, le maraîchage.
Oui, c'est ça. Bah, du coup, là, j'ai fait le choix d'ouvrir un petit créneau pour le moment. Donc je suis ouvert tous les vendredis soirs de 16h à 19h. Donc ce qui me permet de continuer la production toute la semaine quand même. Et le week-end aussi. Parce que les plantes ne font pas de pause le week-end. Donc voilà, mais on ne s'ennuie pas à deux personnes. C'est assez chronophage, quoi.
Merci. Sandra, toi tu as donc repris une ferme à Saint-Martin en des Bois. Et non pas Saint-Martin-en-Plaine, Saint-Martin-des-Bois, du côté de Montoire, voilà. Donc une petite ferme atypique, très peu de vaches, transformation aussi. Donc qu'est-ce qui t'a motivé, toi, pour reprendre cette ferme? Comment elle fonctionne?
Eh bien, moi, je cherchais une ferme pour m'installer en vache laitière et transformation fromagère. Dans mon idéal de ferme, c'était environ 20 vaches pour pouvoir bosser à deux, pas toute seule. Donc j'avais chiffré qu'il fallait à peu près 20 vaches si tout est en transformation fromagère pour sortir deux revenus, un pour une personne salariée à plein temps plus le mien. Et donc je cherchais une ferme comme ça et c'était une opportunité un peu incroyable de trouver la ferme de Vincent qui lui s'arrêtait, qui avait 12 vaches mais déjà tout le matériel et le labo de transfo en place, et le bâtiment permettait de monter à environ 20 vaches sans frais supplémentaires. Et il me manquait quelques hectares que j'ai trouvés facilement. Ce qui est aussi encore hyper incroyable.
À côté, juste sur les mêmes parcelles.
Ça touche la ferme. Mm-hmm. Ah ouais, pour permettre d'avoir l'autonomie alimentaire des vaches que j'aurais pas eu sinon. L'autonomie, parce que je voulais être sur un système tout herbe. Enfin, herbe et foin l'hiver, quoi, mais pas d'autres plantes dans l'alimentation.
Pas d'import, pas d'achat de nourriture.
Bah, surtout pas d'ensilage, pas de maïs, pas ce genre de choses. Mm-hmm. Pas d'aliments fermentés pour pouvoir avoir un lait de qualité fromagère, en fait.
Et depuis que tu es installé, donc vous arrivez, tu arrives à tirer les deux salaires qui étaient prévus ?
Eh ben, je le sais depuis pas longtemps, avec le bilan comptable de ma deuxième année, puisque j'ai commencé fin 2022, donc l'année 2023 était plutôt une année de mise en route qui était faite pour ça. Et l'année 2024 était représentative, et là j'ai le bilan comptable au début mai, et on a nos deux revenus qui sortent.
Donc c'est possible.
Donc c'est possible.
Alors je vais me tourner vers David en tant que président du GABLEC. Du coup, comment vont les agriculteurs bio en Loire-et-Cher ? Donc on a entendu que le marché n'était plus porteur, que c'était difficile, il y a moins de conversion, on perd de la surface bio. C'est quoi l'état d'esprit là en ce moment en Loire-et-Cher ?
Alors l'état d'esprit est très particulier cette année. Donc en effet, il y a depuis deux ans une vraie difficulté au niveau marché, un vrai retournement de marché. Jusque-là, on avait une croissance à deux chiffres pour la bio qu'on avait observée depuis les débuts des années 2000. Une vraie demande des consommateurs. Et puis c'est vrai que depuis la guerre en Ukraine, l'inflation, etc., on a vu une vraie baisse et un vrai retournement de situation et de la grande majorité des marchés agricoles bio. Et donc on commençait là depuis une toute petite année à avoir un peu d'espoir. C'est-à-dire que globalement, avoir, quel que soit le circuit, un court ou circuit long, avoir un peu d'espérance avec un retour du consommateur dans les magasins bio spécialisés, en grande surface un petit peu moins, mais toujours en grande surface. Et puis sur les marchés, on commençait à revoir un peu de monde. Donc on était, on va dire, heureux, où ça allait mieux. Et puis politiquement, en ce moment, ça va pas bien du tout. C'est-à-dire qu'on a une vraie politique, je vais le dire comme ça, hein, pour invisibiliser la bio. Oui, on a une ministre aujourd'hui de l'Agriculture qui sabre fortement dans les aides ou dans les soutiens à la bio, avec notamment en ce moment, c'est vraiment d'actualité, une volonté de supprimer notre agence, l'agence bio, qui est une agence de communication et de soutien à des filières bio.
D'ailleurs, elle a failli disparaître. Hein. Il y a eu une pétition citoyenne qui a recueilli pas mal de signatures, beaucoup.
Voilà, il y avait une volonté des sénateurs de supprimer l'agence bio, donc une vraie mobilisation du réseau pour essayer de maintenir cette agence qui est objectivement et reconnue par tous. Hein. Tous les syndicats étaient d'accord là-dessus, tous les agriculteurs, pour dire que c'était une agence qui était utile à la filière. Et donc ça a été, on va dire, remis sous le tapis. Et puis là, on a encore des rumeurs comme quoi on veut supprimer cette agence. Et ce qui n'est pas des rumeurs aujourd'hui, ça a été validé par la ministre, un soutien de 18 milliards aux filières bio qui a été raboté de 10 milliards, donc de plus de la moitié. Et donc là, on a du mal à comprendre, mis à part qu'on veuille vraiment invisibiliser la bio. Et c'est vraiment notre grosse crainte aujourd'hui et notre combat, à savoir que c'est pas du tout satisfaisant et que quand on a une situation où ça commence à aller un peu mieux au niveau de la consommation, vouloir sabrer un peu l'aide aux agriculteurs bio aujourd'hui, c'est... Voilà, on a du mal à vraiment comprendre l'objectif final.
C'est ce que j'allais dire. Est-ce que vous avez des explications qui pourraient justifier ? Il y a quand même des objectifs. Je rappelle les objectifs, 20%. Alors, 20% dans les cantines, restauration scolaire, c'était un objectif, je crois, 2020.
Alors, c'était lancé en 2018.
Ouais.
Et aujourd'hui, on est en moyenne nationale de 7-8%. Donc, on en est très loin.
Donc, on en est très, très loin. Un objectif, et voilà, je me mélange dans tous mes papiers.
C'était 21% des surfaces bio d'ici 2030.
D'ici 2030, qui a été rappelé dans la loi d'orientation agricole de février 2025.
Toute récente.
Voilà.
Donc les objectifs sont là, sont toujours encouragés par les politiques, enfin, en tout cas par les mots. Mais dans les actes, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout le cas et qu'on se retrouve vraiment dans une situation très, très compliquée. Les chiffres qu'on a aujourd'hui, c'est que la moyenne des aides bio ont été diminuées de moitié depuis ces trois dernières années. Donc on a vraiment des gros doutes et sur la volonté, en tout cas, du gouvernement de soutenir la bio sur le long terme.
Alors, et alors qu'est-ce que c'est que le plan BioCAD 2024 qui, paraît-il, renforcerait les aides à la conversion ?
Alors, ça ne me parle pas comme ça, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on avait des aides à la conversion qui étaient sanctuarisées par l'ancien ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, qui est un local, qui avait mis des sous justement pour aider à la conversion des agriculteurs conventionnels. Et récemment, il y a 250 millions d'euros qui n'ont pas été utilisés dans ce cadre de cette aide, parce qu'il y a très peu de conversions, vous l'avez dit tout à l'heure dans les chiffres. Et du coup, sur ces 250 millions, on voudrait qu'ils reviennent à la bio. soit d'aide directe aux agriculteurs qui sont en difficulté, soit l'aide à l'installation des jeunes en agriculture bio, etc. Et la ministre de l'Agriculture actuelle a décidé tout récemment de prendre 50 millions de cette aide pour l'installation des jeunes au niveau national, sans aucune contrepartie au mode de production. Ce qui est extrêmement rageant pour nous, parce que ça pourrait aider, encore une fois, beaucoup de producteurs qui sont vraiment en difficulté aujourd'hui.
Est-ce que vous mettez cette politique-là en lien avec la fameuse loi Duplomb ? Alors, il en a été question un petit peu avant avec Clémentine, qui vise à réintroduire certains pesticides, qui vise à valoriser les bassines, les grandes fermes. Enfin, est-ce que vous pensez qu'il y a un peu un lien et que là, la politique agricole française est en train vraiment de faire un retour en arrière ?
Si on le met dans la balance, c'est qu'on donne beaucoup ou on libère beaucoup un mode de production unique qui est un mode de production exportateur, principalement. Intensif et industriel, et c'est pas du tout un mode de, enfin des soutiens en tout cas à d'autres modes de production qui sont l'agroécologie ou l'agriculture bio. Et si on associe à cela la baisse des aides, on voit bien l'objectif du ministre aujourd'hui de favoriser un certain type d'agriculture et de défavoriser un autre.
Alors, du coup, je vais me tourner vers Luc et Sandra, vous qui êtes producteurs laitiers. Il semble que ce soit la filière laitière biologique qui souffre le plus parmi les produits biologiques. Qu'en est-il donc pour vous, ferme de la Guilbardière et puis à la chapelle à Saint-Martin-des-Bois, j'y arriverai pas.
Ferme de la Grue.
Ferme de la Grue. Comment vous ressentez les choses, vous, Luc ?
Pour la Guilbardière. On a quand même un socle de consommateurs qui sont des consommateurs qu'on va dire écolo, mais écolo militants, c'est-à-dire ils font ça pour leur bien-être, pour leur santé, mais ils savent qu'en achetant nos produits, ils soutiennent aussi un modèle plus large, des vaches à l'herbe, du respect animal, des vaches qui sortent dehors le plus possible, etc. On va dire que cette partie-là des consommateurs est fidèle et reste fidèle.
Donc on parle de consommateurs militants, hein, tu l'as dit toi-même, voilà. Il y a un côté vraiment engagement.
Il y a un côté engagement, mais malgré tout, il y a aussi le côté consommateur, c'est-à-dire qu'ils savent que c'est bon pour eux aussi d'acheter ces produits-là. Et donc on va dire que ce socle-là, c'est plutôt le cercle des consommateurs touchés directement par la vente directe, en AMAP, etc. Donc là, pour nous, c'est plutôt stable. Après, sur le circuit grande surface, en effet, on a remarqué un ralentissement, et après donc les grandes surfaces avec nous directement jouent plutôt le jeu, parce que on a des accords en tant que producteurs locaux, on représente une image locale, et en contrepartie ils font une marge plutôt réduite par rapport à d'autres produits, donc ça c'est plutôt avantageux pour nous. Mais de l'autre côté, d'un point de vue présentation aux consommateurs, on voit que les rayons bio ont disparu, et dans certains magasins il n'y a plus de rayons bio, on remet des du bio à droite à gauche, un petit peu au milieu d'autres sigles verts, etc., qui créent un peu de confusion chez le consommateur. Et en effet, après, il y a aussi le discours qui persiste que d'un point de vue du consommateur, le bio reste plus cher, en tout cas dans l'esprit. C'est sans compter sur d'autres manières d'acheter du bio, hein, c'est sûr, d'acheter du local dans les AMAP, etc. Mais ça, on le sent que dans les grandes surfaces, en tout cas, les personnes, du coup, s'il y a besoin de rogner, rognent sur ces produits-là, quoi, avec cet état d'esprit de dire que c'est plus cher et que voilà, on peut pas se permettre, alors que bon.
Alors, Sandra, toi, quel est ton mode de commercialisation ? Est-ce que c'est uniquement à la ferme ?
Alors non, c'est pas uniquement à la ferme, ça suffit pas. La vente à la ferme, les gens, ils viennent d'un rayon de max 10 km autour. Et moi je dirais comme Luc, la clientèle qu'on a aujourd'hui, c'est une clientèle de consommateurs. Alors pas seulement, soit des gens qui cherchent des produits qualitatifs, on n'a pas que des militants nous. On a soit des gens qui cherchent des produits qualitatifs et qui les trouvent chez nous, enfin qui s'y retrouvent dans nos produits. Notamment j'ai un peu de vente en restaurant, resto bistrot un petit peu. Vente à la ferme, vente sur les marchés, beaucoup de livraisons en AMAP, donc quand même une grosse proportion de consommateurs militants, quelques magasins de producteurs, petits revendeurs, épiceries locales. Moi j'ai démarré du coup la vente dans le creux de la vague, un an après le démarrage de la guerre en Ukraine. Du coup, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Il a fallu cavaler beaucoup plus pour vendre. Aujourd'hui, on a réussi à trouver les débouchés, mais en élargissant beaucoup le périmètre de vente et les secteurs géographiques que j'avais prévus. Et moi, ma grosse question et inquiétude, c'est en fait, là, je ne suis pas à l'aise pour dire, je serais trop contente que la ferme d'à côté soit reprise par quelqu'un qui fasse comme moi. Mais je me dis, mais en fait, est-ce qu'il y a assez pour que... Alors que c'est très petit, notre production, elle est, en termes de chiffres, c'est peanuts. Mais sur le même secteur géographique, si quelqu'un d'autre s'installait sur un modèle similaire et tout... Mais en fait, on aurait peut-être du mal à vendre à deux.
À vivre.
Et ça, je trouve ça très inquiétant de dire on pourrait même pas être à l'aise d'avoir des collègues alors que j'adorerais.
David, en tant que président du Gablec, quel est ton regard justement sur ce que vient de dire Sandra? Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? Comment vous conseillez les gens qui viennent vous voir?
On est convaincus qu'il y a de la place pour tout le monde. Alors, à notre échelle, on fait ce qu'on peut. On sensibilise les consommateurs pour qu'ils consomment de plus en plus bio. On sensibilise les collectivités justement pour qu'elles intègrent de plus en plus de bio dans leur restauration collective, que ce soit les cantines ou les restaurants administratifs par exemple. On rame. C'est pas toujours évident, mais on y travaille et ça fonctionne pour certaines collectivités. On est sur Blois, par exemple. Blois est l'exemple typique de réussite d'intégration de produits bio. Ils ont repris en main leur approvisionnement en produits, tout simplement, au niveau de leur école primaire, école primaire principalement. Et depuis qu'ils ont repris ça en main, ils sont passés à un niveau bien supérieur de ce qu'ils avaient aujourd'hui. Enfin, de ce qu'ils avaient hier plutôt. Ils étaient à moins de 10% il y a un an en approvisionnement en produits bio. Et maintenant, ils sont à plus de 30% en produits bio et locaux.
Donc ils ont carrément explosé le cap des 20%.
Il y a eu une vraie volonté politique. Donc ça, on y travaille, nous, à notre échelle. On essaye de les convaincre. Et on voit que sur certaines collectivités, ça peut fonctionner. Et on sait, de par les chiffres, que si on arrive à 20%, qui est la loi, uniquement la loi, 20% de produits bio en restauration collective, il y aurait de la place pour quasiment la 10 à 15% de producteurs bio aujourd'hui en France. Donc on a vraiment des chiffres qui nous permettent de dire que c'est possible, c'est réalisable, et qu'encore une fois, économiquement parlant, pour la collectivité, ce n'est pas plus cher. C'est qu'on y gagne, parce qu'il y a énormément de coûts cachés de l'agriculture conventionnelle qu'on ne prend pas en compte quand on achète un produit en magasin.
Oui. Alors, ces coûts cachés, c'est notamment tout le coût du retraitement des eaux.
Des pollutions de l'eau pour qu'elle la rende potable, exactement. On estime à peu près à 500 euros par ménage et par an dépensés pour dépolluer l'eau pour la potabiliser. Donc c'est un budget qui n'est pas anodin. Et c'est un budget qui explose ces dernières années parce qu'on s'aperçoit que les eaux souterraines notamment sont de plus en plus polluées par des pesticides qu'on ne trouvait pas ou qu'on ne savait pas qu'ils étaient présents dans ces nappes.
Je me tourne vers Axel. Du coup, toi qui fais du maraîchage, tu disais une quarantaine de cultures différentes. Pourquoi ce modèle sur autant de cultures? Quelle est la logique après pour la commercialisation?
Du coup, en développant la vente directe, je suis obligé de... Le consommateur recherche une diversité de légumes. Mais en même temps, ça nous permet de sécuriser nos productions. Si on a un pépin sur l'une, on arrive à compenser avec l'autre. Par exemple, là, on est beaucoup infesté de pucerons cette année. Et toutes les cultures ne sont pas touchées par les pucerons. Donc ça permet de lisser un peu notre production et notre chiffre d'affaires, de diversifier avec une quarantaine de légumes. Et après, culturellement parlant, pour la production, on est obligé de faire des rotations de culture parce que chaque plante n'a pas le même besoin. Et du coup, pour ne pas abîmer nos sols, on fait des rotations de culture pour aussi apporter des auxiliaires dans nos cultures. On a par exemple des haies également pour attirer toute la biodiversité suffisante à produire en bio et pour ne pas mettre de produits chimiques pour combattre. On fait appel à la nature pour nous aider, quoi. Parce que la nature toute seule est capable de faire le nécessaire, quoi.
Et en termes de circuit, dont tu disais que tu as ouvert le magasin à la ferme, j'imagine que ce n'est pas ton seul débouché, si?
Non, pour le moment, ce n'est pas mon seul débouché. J'aimerais à plus ou moins long terme que ça soit mon débouché principal, mais pour le moment, pour une question de sécurité, je suis resté avec Biocentre Loire, qui est la plateforme où on vend pour la plateforme Biocop en région parisienne essentiellement. Donc ça, les cultures sont planifiées, donc ça me permet de sécuriser ma production pour la vente. Et après, je vends également au magasin Biocop de Blois et de Saint-Gervais en direct, et je fais aussi l'épicerie associative de Candé, l'épicerie de Chaille, et également je participe aussi avec David au projet Parmentier qui permet de fournir les aides alimentaires avec des produits bio, locaux et de saison pour
Alors, ce projet Parmentier, donc Clémentine a parlé juste sur le plateau précédent et j'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir. Clémentine me fait signe, elle me dit qu'il me reste pas longtemps. Moi, je voudrais juste faire un tour de table. Quand on vous dit la bio, c'est plus cher, qu'est-ce que vous répondez ? Je peux pas manger bio, c'est trop cher. Ah, tout le monde se rejette.
Non, moi, je peux commencer. Il y a plusieurs manières de répondre. Il y a des questions de ressenti, de canal de consommation. La bio en grande surface, c'est vrai qu'il y a une marge qui est appliquée. Si on supprime marge par marge, etc., qu'on mutualise dans des AMAP, etc., faut passer la porte des AMAP pour aller voir. Souvent, ça revient vraiment moins cher. Et ensuite, il y a aussi... il s'avère des fois que par construction, c'est plus cher parce qu'il y a plus de charges, parce qu'on produit moins, etc. Et dans ce cas-là, il y a aussi... l'idée de revoir ses priorités de consommation, ses habitudes de consommation et peut-être d'apporter plus d'importance à l'alimentation quand on voit tous les cancers, etc., qui se développent. Voilà, il y a des priorités qu'il faut savoir faire des fois.
Après, moi, je répondrais que... Je répondrais qu'en termes de rapport qualité-prix et qu'est-ce qu'on peut cuisiner avec un kilo de produit. Moi j'ai des retours clients très vite, première commande, ils disent ah c'est cher, je dis bah prenez, cuisinez, ils reviennent, ils disent ah bah oui je peux en prendre deux fois moins pour faire la même chose, ouais, bah, donc en fait c'est pas plus cher, mais le prix kilo a l'air plus cher, mais en fait les aliments sont souvent plus nourrissants et c'est pas vrai que sur mes produits, c'est vrai sur beaucoup de produits fermiers bio. Alors je dis pas bio industriel, je dis fermier bio.
David.
Donc oui, je rebondis un peu sur ce que tu disais tout à l'heure, à savoir que en bio, on a besoin de, enfin, ça crée plus d'emplois qu'en conventionnel. On a des chiffres qui montrent que en agriculture bio, on a à peu près 30% d'emplois en plus qu'en conventionnel. Donc si on veut des territoires vivants, c'est aussi un bon moyen en consommant bio de favoriser ces emplois sur les territoires ruraux.
Bah, on le voit déjà sur vos différentes fermes.
Voilà.
Aucun de vous ne travaille seul.
Moi, sur ma ferme, l'exemple en conventionnel, j'étais tout seul pendant 3-4 ans et 3-4 premières années. Depuis que je suis passé en bio et en vente directe, je suis passé à 4 personnes. Donc, c'est un exemple typique d'augmentation et de création d'emplois sur mon territoire. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, on l'a dit, on l'a un peu énoncé tout à l'heure sur tous les coûts cachés. Il y a notamment sur différents stands ici des études qui montrent que l'impact que peut avoir une agriculture intensive industrielle, notamment sur le bien-être animal, le bien-être du paysan, sur la santé, avec des cas de diabète, d'obésité, des cancers, sur la pollution de l'eau, la pollution de l'air, sur la biodiversité. On sait qu'en agriculture bio, on crée de la biodiversité. On est aussi producteur d'eau potable, plus qu'en conventionnel. Donc on a plein d'arguments pour dire que si on met tout ça bout à bout, l'agriculture bio, c'est une évidence, c'est nettement moins cher que l'agriculture conventionnelle sur le long terme, pour l'ensemble de la collectivité et du citoyen.
Eh bien, on terminera là-dessus, alors. Finalement, manger bio, ça revient moins cher à la collectivité.
Exactement.
Et à tout le monde. Merci d'avoir participé à ce plateau. Je vous souhaite un bon comice.
Merci à vous.
Et puis voilà, c'est terminé pour ce plateau Studio ZEF. À très bientôt à tous et bonne continuation à vous.
Merci.
Au revoir.
Poulet numéro 728120. Poulet de Vendée. Élevé en plein air, 89 jours et 90 nuits. Parmi 380 autres poulets, alimenté avec 75% de céréales. Le 3 décembre 1998, à l'abattoir de Saint-Fulgent, électrocuté, vidé, déplumé, lavé, conditionné, labellisé le poulet. Le 11 décembre 1998, je l'ai acheté 52,55 francs chez le boucher chauve rue de la Bastille. Je l'ai mangé chaud le midi, froid le soir, avec une bouteille de vin rouge. Je l'ai adoré, le poulet. Mon poulet, numéro 728 120. Je t'aime. Je pense à toi.